Toujours sur le chiisme, Henri Corbin, Bernard Latour, 1971.
Avant que nous n'abordions avec le professeur Henri Corbin, qui vient de faire paraître chez Gallimard dans la Bibliothèque des idées son ouvrage « En islam iranien », je lui ai demandé de bien vouloir ici nous donner une défense de l'ésotérisme, car dans le début de son livre, dans les premières pages de son livre, il nous dit ce qu'il faut entendre par le mot ésotérisme et combien, dans son sens originel, il faut le réhabiliter.
Moi-même, je n'emploie ce mot d'ésotérisme parce qu'il s'impose. Nous n'avons pas d'autre. Mais je n'emploie qu'en tremblant. Parce que il y a un tel pullulement de pseudo-ésotérisme dans notre pays et dans l'Occident en général que le mot est absolument galvaudé, profané. Et que pour lui faire dire ce que vraiment il veut dire, il faut toutes sortes de précautions et le rappel d'une rigueur oubliée trop souvent. Vous voyez, l'ésotérisme, tel que nous l'entendons avec nos auteurs, tel qu'il se trouve en milieu de civilisation traditionnelle, n'est pas en premier lieu un phénomène de ségrégation sociale, tel qu'on peut le déduire de la définition que donne le petit Robert, par exemple, de l'ésotérisme. L'ésotérisme tient essentiellement à la nature des choses, à la perception du monde, à un jugement sur le monde des phénomènes. Qu'est-ce que c'est que le phénomène? Le phénomène n'est-il qu'une apparence ou est-il une apparition? S'il n'est qu'une apparence, nous sommes condamnés au nominalisme et à l'agnosticisme, dont d'ailleurs la conscience occidentale, depuis un siècle et demi, s'accommode aisément. S'il est une apparition, il faut nous demander, mais qu'est-ce qui apparaît là-dessous? Qu'est-ce qui se manifeste? Et ces notions d'apparition, de manifestation, d'épiphanie, de théophanie, il y a tout un lexique très riche en arabe, en persan, pour le dire. C'est tout cela qui se trouve au centre même et polarisé autour de ce que j'ai appelé le phénomène du livre saint. Je crois qu'à l'origine même du chiisme, et dès le vivant du prophète, il y a cet axiome que la révélation, que le phénomène du livre, la descente du livre saint du ciel par l'organe du prophète, se présente sous un double aspect. L'aspect extérieur de la religion positive, de la loi religieuse, et l'aspect intérieur caché du sens ésotérique. Il faut revenir, n'est-ce pas, à l'étymologie des mots. Exotérique vient du grec ta exo, ça veut dire des choses extérieures. Ésotérique vient du grec ta esso, des choses intérieures.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawm al-din, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina s-sirat al-mustaqim, s-sirat al-ladhina an'amta alayhim.
C'est dans une mosquée d'Isfahan que j'ai enregistré ce croyant qui récitait une sourate du Coran. Mohammed avait été élevé par son oncle Abu Talib, car son père et sa mère étaient morts alors qu'il était encore tout jeune, son père alors qu'il avait 2 mois et sa mère alors qu'il avait 6 ans. Et il va épouser Khadija, une riche veuve de 15 ans, son aînée, qui va lui donner 6 enfants, dont seule survivra Fatima, la fille chérie du prophète. Cette fille Fatima, la fille donc préférée de Mohammed ou de Mahomet si vous préférez, puisque depuis les croisades en France nous disons Mahomet au lieu d'appeler le prophète Mohammed comme on le fait dans le monde entier. Fatima donc, la fille préférée du prophète, épouse Ali, qui est le fils d'Abu Talib. Ali est donc le gendre et le cousin germain en même temps du prophète. Et cet Ali fait partie du petit noyau de fidèles que Mohammed convainc après ses visions de l'ange Gabriel. Il y avait également Khadija, sa première épouse, Abu Bakr, son ami, et qui est le père de la seconde épouse à venir de Mohammed, et Omar. Lorsque le prophète vient à mourir, les ralifs qui vont avoir à cette époque des responsabilités politiques et religieuses. Les ralifs sont choisis parmi les compagnons de Mohammed qu'il avait suivis à Médine. Il y a en premier lieu cet Abu Bakr dont nous venons de parler, c'est-à-dire le père de sa seconde épouse, qui va être ralif de 632 à 634 pendant 2 ans seulement, puis Omar, qui alors lui sera ralif pendant 10 ans de 634 à 644. Ensuite, c'est le parti de la Mecque qui se met en valeur, le clan des Omeyyades, jusque-là tenu à l'écart du pouvoir, avec Othman qui est ralif de 644 à 656, c'est-à-dire pendant 12 ans. Il meurt assassiné. Et nous retrouvons alors à ce moment Ali, ce fameux Ali, par conséquent l'époux de Fatima, la fille préférée du prophète, Ali qui va être ralif de 656 à 660. Le parti qui est favorable à Ali, en arabe on dit Shia, d'où le terme de chiite, considère comme des usurpateurs les trois premiers ralifs, et ils vénèrent uniquement les successeurs légitimes d'Ali, que le prophète aurait désigné comme son préféré, comme devant être son héritier spirituel, et comme devant être par conséquent le responsable de l'islam. Ali et ses 11 descendants dont nous aurons à parler en expliquant le chiisme, voici donc les 12 imams, voici le chiisme duo décima.
Oh, toutes les traditions chiites nous montrent le prophète soucieux d'instruire toujours son jeune cousin qui était le premier imam Ali ibn Abi Talib. De tous les sens, de tous les aspects de cette révélation, l'imam s'est senti, dès avant la mort du prophète, investi de cette mission de l'ésotérie. Cette mission qui essentiellement s'exprime dans le mot de ta'wil, qui est l'herméneutique spirituelle, et qui veut dire littéralement reconduire une chose à son origine spirituelle, à son archétype. Et le sens de la lignée des imams, c'est justement celle d'une dynastie qui n'est pas une dynastie politique, qui n'est pas du tout en compétition avec les Omeyyades et les Abbasides sur un plan politique. C'est justement le sens d'une dynastie spirituelle privilégiée, quelque chose un peu comme les gardiens du Graal dans nos traditions médiévales, et dont la fonction première est d'être les mainteneurs du livre, les mainteneurs du sens intégral du livre. Sans ce sens intégral, le livre n'est plus qu'un cadavre. Et c'est une chose extraordinaire que nous trouvons justement dans des traditions, par exemple, du 5e et du 6e imam, cette affirmation qui revient sous différentes formes, que si le livre, c'est-à-dire le Coran, si le Coran, les versets coraniques, n'avaient de sens que par rapport aux circonstances et aux personnes au moment desquelles ces versets furent révélés, il y a longtemps que le Coran serait mort. Or, ce livre, le Coran, est vivant jusqu'au jour de la résurrection. Et s'il est vivant jusqu'au jour de la résurrection, c'est à cause de ce sens ésotérique qui doit chaque fois opérer la naissance spirituelle, la résurrection spirituelle de l'adepte qui en reçoit l'initiation de son imam. Eh bien, c'est malheureusement cette chose, cette conception des choses qui a été écartée avec brutalité, et on peut dire, dès le dernier soupir du prophète. Et lorsqu'on demande à un cheikh chiite, lorsqu'on lui explique un peu le phénomène de sécularisation du christianisme, lorsque nous demandons que ça a commencé avec Constantin, plutôt avec Pépin le Bref. En général, le cheikh chiite, mais ça a commencé avec le dernier soupir du prophète. Lorsqu'avec brutalité, on a écarté l'imam, et la lignée des imams, et lorsque c'est substitué à la succession du prophète, lorsque ce sont substitués aux imams, ceux qu'on appelle les khalifs, c'est-à-dire Abou Bekr, Omar, Osman. C'est toute la tragédie. C'est toute la tragédie intérieure à l'islam. Quelquefois, on se plaît à poser la question entre chiites, mais qu'est-ce que serait devenu l'islam si dès l'origine, on avait accepté cette conscription chiite? À cette question, il n'y a pas de réponse. C'est le grand mystère. La seule réponse, c'est celui de la parousie du dernier imam.
Pour la compréhension de ce que va nous dire le professeur Corbin, précisons tout de suite que le 12e imam, Mohammed al-Kaïm al-Mahdi, est une figure extrêmement mystérieuse. Il porte d'ailleurs les surnoms de Kaïm, le résurrecteur, Mahdi, le guidé, Montazar, l'attendu, Hojdat, la preuve ou le garant de Dieu, et il est le maître invisible de ce temps. C'est un imam caché. Il était né à Samara en 255 de l'Égypte, soit 869 de notre ère, et il disparut très jeune, à l'âge de 5 ans, le jour même de
de la mort de son père, le 4 de Shawwal 260 de l'Hégire, soit le 24 juillet 874 de notre ère. Bien que le 12e imam doive réapparaître un jour, sa disparition présente, son occultation, a un sens métaphysique très profond, Henri Corbin.
Aller en profondeur serait d'abord constater que les Iraniens attestent depuis l'origine un génie religieux remarquable et qu'ils sont facilement à l'affût de nouvelles expériences religieuses à tenter, de nouvelles expériences mystiques dont il faut essayer l'aventure. Et je crois que nous en trouverons la raison profonde en insistant sur ce qu'il peut y avoir de commun entre certains thèmes fondamentaux du chiisme duodécime et certains thèmes fondamentaux du zoroastrisme, donc de la théologie et théosophie mazdéenne qui a précédé immédiatement à l'islam. Or, une figure dominante de la spiritualité et de la philosophie du monde du chiisme duodécime est celle du 12e imam. Le 12e imam, donc, qui est la figure terminale du plérôme des 12 imams, des 12 immaculés, et dont la figure très énigmatique, vulnérable, si on applique les méthodes et les critères de la critique historique positive, mais en revanche, s'attestant comme étant depuis 10 siècles l'histoire même de la conscience chiite, de la conscience iranienne. Et quelque chose de très remarquable, c'est que les Iraniens, dès l'époque, dès le zoroastrisme, ont peut-être été ceux qui non seulement ont envisagé dans toute sa rigueur le dualisme, l'opposition du monde de la lumière, du monde des ténèbres, mais aussi l'eschatologie. Ce sont ceux qui véritablement ont fondé une perspective eschatologique du monde et dominant cette figure, cette perspective eschatologique, et de la figure de celui qu'on appelle dans le zoroastrisme le Saouchiant, c'est-à-dire le sauveur à venir, celui qui doit terminer le cycle de notre aïon, les 12 millénaires de notre aïon. Il est dans un rapport, il est avec Zoroastre, dans un rapport de filiation étroite. Il est en quelque sorte un Zarathustra, un Zoroastre Redivivus. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'également la philosophie chiite, la conception chiite du monde, est dominée par cette perspective eschatologique. L'eschatologie n'est pas, comme dans le reste de l'islam, dans l'islam sunnite, quelque chose qu'on peut envisager, mais qui reste improbable. L'eschatologie est liée organiquement à la racine même de la Weltanschauung, de la conception du monde. Et ce 12e imam, qui est à la fois présent au passé et au futur, puisque sa courte apparition n'a duré que quelques années, il a disparu étant tout enfant, mais dont le retour est attendu, dont la parousie signifiera également la fin de notre aïon. Mais ce qui est remarquable, c'est que son rapport avec le prophète Mohammed, tel qu'il s'exprime dans les traditions chiites les plus officielles, le prophète disant « Il viendra celui issu de ma postérité, quelqu'un qui portera mon nom, son surnom sera mon surnom, il combattra pour l'herméneutique spirituelle comme moi pour la révélation, ainsi de suite. » Son rapport, le rapport entre le prophète de l'islam et le 12e imam est véritablement un rapport analogue, étroitement analogue, au rapport entre le Saouchian zoroastrien et le prophète Zoroastre. On comprend donc que d'emblée, spontanément, tout ce qui dans la piété et la philosophie zoroastrienne s'était polarisé sur la figure de Saouchian s'est très facilement transféré, polarisé sur la figure et sur la personne du 12e imam. Et cela, ce n'est pas un orientaliste du XXe siècle qui vous le dit. Je l'ai trouvé attesté chez des philosophes chiites, l'un particulièrement au XVIIe siècle, Qutbuddin Ashkenazi, un élève du grand Mir Damad, disant que celui que nous appelons le 12e imam, c'est celui que les Zoroastriens appelaient le Saouchian. Comme d'autre part, le 12e imam a été identifié par certains auteurs chiites avec le paraclet annoncé dans l'évangile de Jean, que l'on connaissait de première main, vous voyez devant quel complexe extraordinaire nous nous trouvons. L'horizon d'une eschatologie que domine la figure du 12e imam, identifié avec le Saouchian zoroastrien, d'autre part identifié par les chiites eux-mêmes avec la figure du paraclet. Il n'y a rien d'exagéré à dire que l'horizon de la philosophie iranienne est véritablement un horizon paraclétique. Et j'irai même plus loin. Toute la figure du Saouchian zoroastrien, s'entoure d'une aura, d'une élite de compagnons mystérieux. Nous retrouvons exact justement cela dans le chiisme. De même qu'il y a des compagnons zoroastriens du Shaoxian, nous avons des compagnons du 12e imam, qui opèrent avec lui la résurrection finale, la clôture de notre ayoun. Et c'est quelque chose qui s'enracine si profondément, que cette idée de compagnonnage du 12e imam est à la racine d'une conception spécifiquement iranienne de la chevalerie, qu'on appelle la futuvat en arabe ou javan mardi en persan. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et c'est un phénomène qui s'est propagé dans toute la civilisation islamique. Mais ce qui est important, c'est de trouver à l'origine, et pourquoi nous, c'est dans le vieil Iran zoroastrien que nous trouverons justement les racines et l'origine de cette conception de la chevalerie. Entre chevalerie zoroastrienne et chevalerie chiite, de l'Iran islamique, il y a un lien profond qui s'atteste d'ailleurs dans un phénomène littéraire très particulier, très caractéristique de l'Iran, c'est le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique. Et les conséquences vont très loin, car si l'idée d'une chevalerie iranienne s'enracine ainsi jusque dans le passé zoroastrien, nous avons encore là un point de rencontre avec ce qui reste peut-être le legs le plus précieux de notre civilisation occidentale, qui est celui de notre chevalerie médiévale. Et ce n'est pas un hasard si chez Wolfram d'Eschenbach prédomine cette idée d'une chevalerie commune à l'islam et à la chrétienté. Et lorsque dans l'Iran de nos jours, vous voyez, on manifestait un dévouement extraordinaire, une élite de jeunes gens et de jeunes filles, ce qu'on a appelé l'armée du savoir, l'armée de l'hygiène. Là aussi, nous avons un phénomène de chevalerie moderne, de chevalerie contemporaine, et je me rappelle d'avoir entendu attester avec fierté par le premier ministre actuel de l'Iran, son Excellence, M. Ovaïda.
Mais si le chiisme a permis aux Perses de se distinguer des Arabes sunnites, il y eut aussi une autre raison dans leur adoption du chiisme. En effet, nous avons vu que les premiers khalifs avaient été élus. Or, au sein de la succession des 12 imams, c'est le principe de l'hérédité qui va être retenu. Et ce principe de l'hérédité s'accordait beaucoup mieux avec l'idée de monarchie établie chez les Perses que le principe d'élection établi chez les Arabes. Nous n'évoquerons pas ici la succession des 12 imams, il faut cependant parler du troisième imam de Hussein. Hussein est né à Médine en 626 ou 627 et il était le second fils d'Ali et de Fatima, encore une fois la fille préférée du prophète Mohammed. Lors de l'avènement de Yazid en 679, un omeyyade, Hussein ne voulut pas le reconnaître, alors il quitta Médine, se rendit à la Mecque, puis il partit pour Koufa, en Irak actuel, où ses partisans l'appelaient pour le proclamer calife. Mais à Karbala, les troupes du gouverneur de Koufa, qui étaient favorables aux Omeyyades, arrêtèrent la caravane de Hussein. Il y eut une bataille et il fut tué ainsi que plusieurs membres de sa famille. L'anniversaire de sa mort est d'ailleurs commémoré dans le monde chiite au jour de Ashura. Seul son fils fut épargné miraculeusement lors de la bataille et de la mise à mort pratiquement de toute la famille, et ce fils, Ali Zayn al-Abidin, sera le quatrième imam. Si je vous parle du troisième imam Hussein, c'est que ce troisième imam aurait épousé la princesse Charbanos, qui était la fille du dernier roi sassanide, Yazgerd, ce roi qui fut capturé par les Arabes. Et ainsi, le quatrième imam aurait été iranien par sa mère. Mais le fait chiite n'est pas un fait de spiritualité uniquement du Xe ou du XIe siècle. Il se rattache directement au courant de pensée contemporain tel que nous le démontre à nouveau le professeur Henri Corbin.
Depuis quelques années, le mot herméneutique a envahi beaucoup de nos recherches philosophiques. On oublie quelquefois peu ou prou ses origines théologiques. Tout de même, les travaux de Diltay sur Schleiermacher sont là pour nous rappeler. Mais j'ai senti, au cours de ces recherches, je ne l'ai pas caché d'ailleurs, des chapitres consacrés à ce qui fait l'essence de l'herméneutique chiite, un perpétuel recroisement avec nos préoccupations constantes de nos jours. J'insistais en même temps, c'est ça qui m'apparaît essentiel, sur ce qu'il y a de commun avec ce phénomène du livre révélé entre les trois communautés de la tradition abrahamique, judaïsme, christianisme, islam. Car de part et d'autre, tous ceux qu'on peut appeler les gnostiques, les spirituels, se sont trouvés devant le même problème. Quel est le sens vrai du livre? Comment découvrir ce sens vrai? En dehors de ce sens vrai, quel serait l'intérêt du livre? Et il y a des ressemblances, des identités, même de méthodes profondes, remarquables, entre la méthode des kabbalistes, la méthode et des kabbalistes chrétiens aussi, et celle de nos théosophes chiites. Il faudra un jour, mais nous ne pourrons pas le faire la semaine prochaine, ni dans un an, faire la synthèse, le rapprochement. On va se dégager quelque chose, comme ce que j'appellerais un écuménisme abrahamique, et fondé spécialement, fondé essentiellement, sur ce phénomène du livre saint, et l'herméneutique puissante et satirique du livre saint.